went to an Ivy League school. I'm very highly educated. I know words. I have the best words. I have the best. But there's no better word than stupid. Right? There is none.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, faut-il vraiment traduire Trump de Barack Obama l'élégant à Donald Trump le manager? Il y a eu plus qu'une rupture de style, une rupture de ton. Traductrice de presse, notre invitée s'est d'abord arrachée les cheveux quand elle a été confrontée à cette langue nouvelle. Des phrases souvent inachevées, écrit-elle, et parfois dépourvues de sens. Puis, elle a commencé à analyser cette syntaxe déroutante et à se demander quelle réalité nouvelle elle traduisait. Des observations qu'elle a rassemblées dans un livre, La langue de Trump, publié aux arènes. La langue de Trump, matière première de mon travail, s'est révélée appartenir à un univers à part, à la fois cause et effet de l'avènement d'une nouvelle Amérique. Bonjour Bérangère Viennot.
Bonjour.
Pour qui traduisez-vous d'abord? Pour des sites d'information, pour de la presse écrite, mais aussi pour des télés, pour des radios? C'est-à-dire que vous devez parfois traduire, interpréter sur le vif ces propos?
Alors non, je ne traduis pas sur le vif ces propos. La plupart du temps, je traduis pour la presse écrite et sur Internet, principalement pour le site Slate, depuis le début d'ailleurs de la création de Slate, qui correspond avec l'élection de Barack Obama justement. Quand Barack Obama a été élu, on a commencé tout de suite à traduire des articles de l'américain vers le français. Et le code politique de Barack Obama était assez classique. Son langage aussi, donc ça s'est passé tranquillement, normalement, et puis quand petit à petit les choses ont changé, Donald Trump a été élu, alors là tout a changé.
Tout a changé pour vous,
pour moi.
Dans cette
traduction,
pas que pour
moi,
en tout d'ailleurs. Cas, pour les traducteurs. Slate, donc petit frère de l'américain, qui s'est ouvert en France à partir de ce moment-là. Un langage simple qui interpelle ou invective, en tout cas qui établit un rapport très direct entre les interlocuteurs du président américain ou le peuple américain. Est-ce que Donald Trump n'a pas avant tout le souci, pour vous, Bérangère Viennot, de réduire les distances?
Je pense que c'est une possibilité. Je pense qu'il veut réduire les distances pour pouvoir toucher ce qu'on appelle le peuple. Et je pense que c'est très efficace d'ailleurs, puisque son parler très simple, pas du tout sophistiqué, permet une compréhension globale. Tout le monde peut comprendre ce qu'il dit puisque ses mots sont très simples, son vocabulaire n'est pas du tout élaboré. Et oui, je pense que c'est volontaire puisque lui se déclare le candidat du peuple. Il passe son temps à le dire d'ailleurs, à parler du peuple et dans différents termes et différents registres. Par exemple, pour dire que les médias sont les ennemis de ce peuple que lui défend. Alors après, politiquement, c'est complètement erroné puisque lui n'est pas du tout issu du peuple. Lui, c'est un milliardaire qui est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche, en platine même.
Mais il a l'avantage de réduire ses distances, et pas simplement avec les Américains, mais aussi avec le monde entier. Vous l'écrivez, lorsqu'on lit ou qu'on écoute Donald Trump, même quand on n'est pas très fort en anglais, ce qui est notre cas ici, on a l'impression de tout comprendre. C'est pratique en fait. Avec Trump, on pourrait presque se passer de traducteur ou se passer de traduire Donald Trump.
Alors ça, c'est ce qu'on pourrait penser à première vue, oui. Puisque son vocabulaire est très simple, très limité, du niveau d'un élève de 5e aux États-Unis, il n'emploie que des mots qu'on connaît tous. Principalement « good »,« bad »,« tremendous »,« sad ». Et puis aussi beaucoup d'exclamations, d'onomatopées qui sont quasiment internationales. Donc oui, quand on l'entend, quand on écoute que ces mots, on a l'impression qu'on comprend tout. Et puis, quand on est traducteur et qu'on doit vraiment traduire ce qu'il dit, eh bien, c'est pas du tout la même limonade parce que le traducteur ne traduit pas des mots. Le traducteur, il traduit une pensée, il traduit une personne, il traduit un contexte. Et là, quand on est obligé de se pencher sur ce qu'il dit, on se rend compte que derrière les mots si simples, la pensée est souvent creuse, voire totalement inexistante. Ou alors, elle ramène Donald Trump toujours à la même chose, c'est-à-dire à lui.
Il utilise beaucoup Twitter, ça c'est un de ses médias favoris, et pour cause, c'est une pensée aussi celle de Donald Trump, racontez-vous, qui tient facilement en 140 signes, voire en 280 aujourd'hui. Vous vous référez à l'étude de Peter Oborne et de Tom Roberts dans un livre paru « How Trump Think His Tweets and the Birth of a New Political Language ». On traduira là aussi, j'espère, assez facilement. Donc la pensée de Trump, ses tweets et aussi la naissance d'un nouvel langage politique. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Quel type de mots sont les plus récurrents? Qu'est-ce que cette façon de communiquer par Twitter lui permet de transmettre très rapidement?
Les mots qui sont les plus récurrents sont les mots les plus simples, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, et ce sont ceux qui permettent de diviser le monde en des catégories simplistes, c'est-à-dire de diviser le monde en deux parties, les gentils d'un côté, ceux qui sont partisans de Donald Trump et qui pensent comme lui, et les méchants de l'autre, ceux qui pensent autrement. Et là, il met tout le monde dans le même sac. Et c'est vrai que Twitter, c'est pour lui, ça facilite beaucoup ces messages-là, puisque c'est très court. Et surtout, c'est très éphémère. C'est-à-dire qu'il tweet à peu près toute la journée, il commence très tôt le matin en se levant. Mais tous les messages qu'il met se chassent les uns les autres. Et il peut toute la journée proférer des exclamations ou des fulminations diverses, parfois en se contredisant, mais c'est pas très important pour lui. Et pour ça, pour faire passer ce message très simple et diviser le monde en les personnes qu'il faut écouter et celles qu'il faut pas écouter.
Et puis avec Donald Trump, il y a aussi ce que relèvent les deux auteurs de cette étude, il y a les mots, mais il y a aussi les affects, des affects et des émotions qu'il transmet beaucoup par l'utilisation des points d'exclamation, des points d'interrogation, des majuscules aussi, ça à travers ses courts textes qu'il rédige pour Twitter. Alors vous dites une rhétorique simpliste ou simplificatrice, il n'est pas le premier quand même à en faire usage. Si Barack Obama avait relevé le niveau, on peut dire aussi que la langue de Trump se rapproche un peu de celle de Bush fils qui usait lui aussi de ce type de rhétorique. On se souvient, pour donner l'exemple le plus connu, de son axe du bien et du mal, cette manière de diviser le monde en deux. La langue de Trump, est-ce qu'elle est vraiment pour vous plus faible, plus simplificatrice que celle de ses prédécesseurs ?
Vous avez raison, c'est vrai que Bush aussi avait cette petite tendance. Alors c'est pas juste les présidents américains, c'est aussi une tendance, je pense, de la société américaine tout entière, parce que c'est plus simple de penser de façon manichéenne. Mais la différence, c'est que Bush, il avait une certaine autodérision par rapport à ce qu'il pouvait dire quand il faisait des bourdes ou quand il parlait de façon un peu simpliste, que n'a pas Donald Trump. Je pense que Bush n'était pas très habile pour s'exprimer, c'est certain. Mais il avait quand même une profondeur de réflexion qu'on pouvait trouver chez lui, qu'on trouve pas chez Trump. Et surtout, il se prenait pas autant au sérieux. C'est-à-dire que s'il faisait des bourdes, il était capable de s'en rendre compte et d'en rire lui-même. Chose dont est absolument impossible Donald Trump, incapable Donald Trump.
Alors on va entrer dans le texte avec lui et voir si tout ça n'est pas assez cohérent avec le discours de vérité qu'il tient ou qu'il prétend tenir, un discours sans ambiguïté. Et Donald Trump régulièrement appelle ses auditeurs, ses interlocuteurs à le croire.
And believe me, her and Bill had a bad evening. Believe me.
He still didn't believe me, but believe me, it is, okay?
Believe me, folks. Believe me. Believe me. Believe me.
Believe me.
Believe me.
Believe me, folks. We're building the wall. Believe me. Believe me. We're building the wall. And you know what else? I have great respect for women. Believe me. Believe me.
I think he's a racist. I am the least racist person that you've ever met, believe me. The least racist person.
Believe me.
Voilà, croyez-moi, believe me, j'ai du respect pour les femmes, croyez-moi. À partir du moment où lui le dit, lui l'affirme, qu'est-ce que vous entendez ? Vous entendez, en traductrice avertie, c'est tout le contraire, il ne faut pas le croire.
Oui, j'entends ça. Les gens qui défendent le plus ce genre de conviction... de façon aussi sonore et de façon aussi péremptoire, sont celles qu'il faut, je pense, le plus remettre en doute. Quand on peut, pour un homme politique comme pour quelqu'un qu'on connaît au quotidien, juger plus par les actes que par les paroles. Et on a l'impression, surtout quand vous passez comme ça les documents en boucle, believe me, qu'il essaye de noyer ses actes dans des paroles. Mmh. Mais c'est un homme de show. Quand il parle comme ça, il est à la télé. C'est comme quand il était dans son émission The Apprentice et qu'il pouvait décider de la vie ou de la mort des gens et qu'il savait que c'était finalement un jeu et qu'il pouvait dire ce qu'il voulait. Là, on n'est pas devant un président quand il parle comme ça, on est devant un présentateur de télé-réalité.
Alors la vie ou la mort dans le monde de l'entreprise, de les virer ou de ne pas les virer,
bien sûr.
Voilà. C'était le patron. Vous dites qu'il a un langage très simple, une rhétorique simplificatrice aussi, mais je ne comprends pas du coup quelle est la difficulté à le traduire. Plus le langage est simple, plus ça devrait être simple à traduire.
Alors, les mots sont simples à traduire, mais la pensée, non. Et ce que le traducteur doit traduire,
complexe, Donald
c'est
Trump.
La pensée.
Voilà.
Et quand vous prenez un discours qui a des mots très simples, avec un vocabulaire vraiment de base, il faut que vous trouviez quel est le message derrière. Et le message, il est beaucoup plus simple à comprendre quand les mots sont très précis, voire spécialisés ou techniques. Alors, pas super techniques, évidemment, en politique, on ne peut pas se le permettre. Mais... si la pensée est très précise, normalement, les mots doivent le refléter assez facilement. Et si moi, je vous dis, traduisez-moi le mot « bad », vous allez sans contexte et sans pensée derrière, vous n'allez pas savoir quoi me dire. Il y a un exemple qui me vient, c'est par exemple quand il a commencé à faire la guerre commerciale à l'Allemagne parce que il estimait que les Allemands vendaient trop de voitures aux États-Unis. Il a dit les Allemands they're bad, very bad Germans. Et ça, j'ai dû le traduire à un moment pour un article pour Slate, et je me suis dit, je peux pas quand même pas mettre les Allemands sont méchants, très méchants. Bad, en général, quand on parle de quelqu'un, on pense à méchant. Les Allemands sont mauvais, très mauvais, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que c'est bad German?
C'est pas et ça alors, qu'il a voulu dire pour vous?
Alors, moi, je l'ai traduit, à ce moment-là, je l'ai traduit par affreux, ces affreux Allemands. Mais vous voyez, par exemple, ce mot bad, si vous le traduisez dans ce contexte-là, donc moi, mon choix de traductrice, qui n'est pas forcément le meilleur, c'était de dire affreux, mais si vous voyez bad German dans un autre contexte, alors, je vous dis n'importe quoi, mais au hasard, un contexte européen ou francophone du XXe siècle, vous n'allez pas mettre affreux, vous allez mettre quelque chose d'atroce. Ou, en fonction du contexte, le même mot peut revêtir plusieurs réalités. Et plus ce mot est basique, plus il est généraliste, et plus c'est compliqué parce qu'il faut vraiment rentrer dans le cerveau de celui qui parle et dire qu'est-ce que lui a vraiment voulu dire. Alors, c'est pas qu'est-ce qu'il a mangé la veille, mais qu'est-ce que il pense, quelle est la structure de sa pensée qui l'emmène à utiliser ce mot-là et pas un autre. Et avec Donald Trump, comme c'est toujours les mêmes mots, en fait, le traducteur doit vraiment remonter et se dire, mais il a voulu dire quoi? Alors, l'idée étant que normalement, il y a une pensée complexe, mais très vite, et c'est pour ça que vous dites, je me suis arraché les cheveux, c'est que pour un autre homme politique ou une autre personne, j'arrive à peu près, en faisant un travail de recherche en amont, à savoir quelle était sa pensée en fonction de son bord politique, en fonction de ce qu'il a déjà déclaré. Mais avec Trump, c'est pas vraiment possible parce qu'il saute du coq à l'âne et du jour au lendemain, il peut se contredire. Et donc, on se retrouve à, en français, soit interpréter de façon à ce que ce soit plus clair, mais alors là, avec un vrai risque qu'on se trompe, et le traducteur ne doit pas se tromper, soit rester comme lui, dans le vague, avec des mots totalement flous, généraux, et puis se rendre compte qu'au final, ça veut rien dire.
Voilà, et vous l'écrivez, Bérangère Viennot, qu'on les envisage par unité sémantique individuelle ou par petit groupe de mots, certains segments semblent avoir un sens, mais l'idée générale, au niveau de la phrase, est compliquée à saisir. Le seul élément récurrent de l'auditoire de Trump est toujours certain de retrouver, quel que soit le sujet abordé par le président américain, quel que soit le contexte et le prétexte de l'intervention, c'est...
lui.
C'est lui. Vous avez aussi écrit « C'est dur de bien traduire quelqu'un qui parle si mal ». Qu'est-ce que vous investissez, vous, traductrice, dans cette idée de bien traduire ?
Bien traduire, c'est rester invisible, déjà, qui est le premier devoir du traducteur, avec bien faire son boulot et tenir ses délais, évidemment.
C'est-à-dire de ne pas y mêler votre subjectivité
c'est ça,
par rapport à l'interlocuteur, à la personne que vous devez traduire.
Oui, et de ne pas sous-traduire, ni sur-traduire, c'est-à-dire de ne pas mettre d'affect, de ne pas mettre son opinion. C'est quelque chose qui, en école de traduction, se travaille. Moi, j'ai des étudiants à qui je passe mon temps à dire « là, tu es en train de traduire en fonction de ce que toi, tu penses ». Or, le lecteur n'a pas à savoir ce que le traducteur pense, on n'est vraiment que des passeurs, des messagers. Donc d'abord, c'est ça le premier travail du traducteur pour bien traduire, c'est de rester invisible, mais c'est aussi de faire assez de recherches en amont, comme je disais tout à l'heure, pour savoir exactement qui parle et quelque part être le porte-voix de la personne qui est traduite ou interprétée. Alors l'interprétation, c'est un peu différent parce que c'est beaucoup plus direct et la parole se perd, mais la traduction écrite, le traducteur de la parole écrite, il a les moyens et le temps normalement de faire suffisamment de recherches pour bien connaître son sujet et faire en sorte que la personne qui va lire sa traduction va ressentir et penser avoir les mêmes réflexes intellectuels que celle qui a lu le texte non traduit dans la langue d'origine.
Il n'y a pas un code de déontologie ou une manière bien particulière de faire pour la parole politique aussi?
Le code de déontologie, c'est le même pour toutes les sortes de traductions. C'est rester fidèle à la parole de départ et justement ne pas donner de sa voix à soi, garder la voix de l'original.
Alors, exemple, le 14 juillet 2017, lors du défilé militaire en France, Donald Trump dit à Brigitte Macron « You are in such a good shape ». Comment l'avez-vous traduit ?
Alors, il a dit ça à Brigitte Macron et ensuite il l'a répété au président français « She's in such good shape ». Eh bien, moi, je l'ai traduit. Alors, on m'a pas demandé de le traduire sur le coup, en fait.
Alors, littéralement, ça veut dire quoi ?
Littéralement, eh ben encore une fois, la phrase magique du traducteur, ça dépend du contexte. Littéralement, ça veut dire vous êtes en forme. You're in such good shape. Vous êtes bien en forme, vous êtes très en forme. Et ça, c'est ce qu'on pourrait comprendre dans un autre contexte, dans un contexte médical, dans un contexte amical. Si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, vous savez qu'il a été malade et vous exclamez « Oh là là, ça va mieux, t'es drôlement en forme ». Mais alors, dans ce contexte-là, en prenant en compte la personne qui parle, donc Donald Trump, le président des États-Unis, et en prenant en compte la personne à qui il s'adresse, parce que c'est pas la même chose quand on dit ça à une dame de plus de 60 ans comme Brigitte Macron ou à une jeune fille de 25 ans par exemple, eh bien, il faut s'adapter et rentrer là, comme je disais tout à l'heure, dans la pensée de la personne qui parle. Or, Donald Trump, il est notoirement sexiste, macho. Il a plusieurs fois exprimé son désir pour des femmes jeunes et uniquement des femmes jeunes et donc belles et désirables. Il est clair que pour lui, une femme de plus de 60 ans n'est pas une vraie femme. Et en voyant Brigitte Macron, apparemment, il a eu un choc et il s'est dit « Ah, bah ça, pour une vieille dame, elle est quand même drôlement bien. » Donc, quand moi j'ai vu les journaux traduire ça par « vous êtes très en forme » ou « elle est très en forme », effectivement, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, mais c'était pas du tout ça qu'il a dit. Ce vieux macho qui traite les femmes comme de la merde, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, n'aurait jamais dit ça. S'il avait parlé français, il aurait dit « vous êtes drôlement bien conservé, vous êtes drôlement bien foutu pour votre âge ». Donc là encore, il y a plusieurs interprétations, bien sûr, on peut choisir la traduction qu'on veut, mais il a certainement pas été ni poli, ni conventionnel. C'était vraiment une parole de goujat.
Autre exemple pour montrer l'importance de cet acte de traduction, l'importance aussi de bien entrer dans la tête de la personne à traduire. Il concerne cette fois Vladimir Poutine, diffusion d'une interview sur Europe 1 et TF1. Là, on entend un extrait donc de la version passée sur Europe 1, où il y aurait eu une erreur de traduction.
Vous savez, il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. Quant à Mme Clinton, elle n'a jamais été trop subtile dans ses déclarations. Mais cela ne nous a pas empêché de la rencontrer lors de différents événements internationaux et de discuter normalement. Je pense qu'ici également, nous pourrions trouver un langage commun. Mais quand les gens dépassent certaines limites de politesse, cela montre leur faiblesse, pas leur force.
Alors là, le chef de l'État russe réagissait à des propos d'Hillary Clinton. Il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. C'est ainsi que ces mots ont été traduits sur Europe 1 et sur TF1. Juste après cela, l'AFP a proposé une autre traduction des mots du président russe, un peu plus nuancée. Il vaut mieux ne pas se disputer avec les femmes. Ça veut tout dire, c'est une grande différence entre ne pas débattre ou ne pas se disputer, ne pas monter le ton avec les femmes dans cette nouvelle traduction. Vous entendez là la responsabilité aussi du traducteur, une mauvaise traduction, et vous pouvez créer un incident diplomatique.
Et tout à fait. Vous savez, on dit dans le métier, les traducteurs, c'est comme les éboueurs. C'est quand ils font pas bien leur boulot qu'on sait qu'ils existent. Le reste du temps, on s'en occupe pas. Donc là, comme mon russe n'est vraiment pas assez bon pour que je sache ce qui a vraiment été dit, en l'occurrence, et puis il peut y avoir tout à fait eu une ambiguïté de la part de Poutine, c'est tout à fait possible. Et si c'est le cas, c'est bien lui le plus malin. Je sais pas si c'est une erreur de traduction. Honnêtement, ça l'est peut-être. Et si c'est le cas, oui, en effet, ça peut donner lieu à des incidents diplomatiques très graves. Mais à l'inverse, un traducteur qui choisirait de surtraduire et de lisser trop les propos d'un homme politique, par respect peut-être pour la fonction, risquerait aussi un incident diplomatique ou simplement de donner une image totalement faussée de cet homme politique parce qu'il n'oserait pas le traduire tel qu'il est vraiment. Et c'est assez amusant que vous fassiez passer cet extrait de Poutine qui parle de la politesse et de la subtilité, parce que c'est bien lui, me semble-t-il, à moins que le traducteur ait commis une erreur, qui disait qu'il voulait buter les Tchétchènes jusque dans les chiottes, ce qui n'est ni très poli ni très subtil.
Vous avez le sentiment, vous, parfois, ou vous l'avez eu avec Donald Trump, que vous avez donc beaucoup traduit depuis sa prise de fonction, de marcher sur des œufs. Il y a eu des tensions comme ça, des moments où vous ne saviez pas comment traduire certaines de ses déclarations, en imaginant l'impact que cette traduction pourrait avoir sur la scène internationale.
Alors, pas tellement. La plus grande difficulté que j'éprouve quand j'écoute et que je dois traduire ce qu'a dit Donald Trump, c'est justement de rester fidèle au code déontologique dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas me laisser aller à trop en faire et à trop en dire. Parce que quand je traduis par « elle est drôlement bien conservée », par exemple, là, je pense que je reste vraiment dans les limites de ce qu'il a voulu dire. Mais c'est vrai que c'est tentant d'en faire des caisses parce que comme on ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller, on ne sait pas s'il est capable de s'arrêter. Moi-même, parfois, qui aime bien mettre un peu de fantaisie dans ma plume, j'ai des envies d'en faire trop, alors que je retiens naturellement, je rassure mon employeur. Mais c'est très tentant. C'est ça qui est le plus tentant, c'est de rentrer dans cette espèce de couloir dans lequel il nous fait avancer et d'aller trop loin, justement. Ce qui pourrait nous reprocher et ce qui serait vraiment pas du tout malin, et ça nous desservirait, nous, quand je dis nous, c'est les médias, les journalistes et les traducteurs, parce qu'en fait, il n'attend que ça.
Est-ce que vous êtes blasé aujourd'hui par rapport à cette langue de Trump, ou est-ce qu'il continue parfois à vous surprendre ?
Ah non, je ne suis pas du tout blasé. Tous les jours, j'ai l'impression de me prendre une baffe à chaque fois que je regarde mon fil Twitter et que je vois une nouvelle saillie. Je ne suis pas du tout blasé et c'est désespérant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, il me surprend.
des baffes avec la langue de Trump et des caresses avec la langue de Barack Obama. Vous le racontez d'ailleurs quand vous écrivez que Trump vous a brutalement expulsé de la zone de confort dans laquelle vous vous prélassiez jusqu'ici avec bonheur depuis l'élection de Barack Obama en novembre 2008, sans pour autant que ce bouleversement apporte le moindre épanouissement à votre pratique. Barack Obama qui articulait bien des discours posés, très travaillés, prononcés avec élégance et décontraction. Il était le chouchou des correspondants qui ont toujours loué notamment son humour, surtout lors du traditionnel dîner de la presse étrangère donné à la Maison Blanche. Voici un extrait d'un de ces dîners où il prononçait son discours, c'était en 2016.
Laissez-moi conclure cette soirée sur une note plus sérieuse. Je veux remercier la Corporation de la Presse de Washington, la Presse Libre et le Centre de la Démocratie et... Non, je rigole. Vous savez que je dois parler de Trump. On n'allait pas s'arrêter là. Bien que je sois un peu blessé qu'il ne soit pas là ce soir. Et c'est surprenant. On a une salle remplie de reporters, de célébrités et de caméras. Et il dit non. Est-ce que ce dîner est trop kitsch pour le Donald ? Qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire à la place ?
Tweeting out insults to Angela Merkel.
Il tweet des insultes à Angela Merkel. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, allez, c'est probablement suffisant. J'ai encore de quoi faire, mais bon.
Non.
Je ne veux pas passer trop de temps sur le Donald. Comme vous, je veux montrer de la retenue. Car je pense qu'on est tous d'accord que depuis le début, il a reçu la quantité de couverture appropriée par rapport au sérieux de sa candidature.
Mais quel formidable communicant ce Barack Obama, quel art de la communication et de la maîtrise aussi, chacun de ses mots, on le sait, rien n'est improvisé, a été pensé, écrit par une équipe entière et il savait très bien ce qu'il faisait aussi Barack Obama. Alors vous parliez de ne pas vous laisser envahir par vos affects, des sensations affectives par rapport à la personne que vous aviez à traduire, si Trump vous inspire plutôt une forme de répulsion, quelque chose de désagréable, est-ce que avec Barack Obama... les traducteurs ne se sont pas laissés aussi un peu duper, trop séduire par cette parole très maîtrisée de l'ancien président américain.
Je ne sais pas si les traducteurs se sont laissés plus séduire que le reste du monde, à vrai dire. Je pense que c'était peut-être qu'on s'est laissé embarquer dans une certaine routine, mais ça m'étonnerait que ça ait contribué à lisser son image qui n'en avait pas du tout besoin. D'ailleurs, là, vous voyez dans cet extrait, il y va quand même très très fort. Le traducteur est, enfin, il est nickel, il en rajoute pas, hein, pas du tout, il en a pas besoin en fait, c'est ça aussi. On se pose pas la question avec Barack Obama de savoir s'il faut un peu lisser son langage ou s'il faut peut-être rectifier ici et là pour être sûr que ça va, que le message va bien passer. Il suffisait de l'écouter et de restituer facilement ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement.
Et justement, qu'est-ce qu'on attend ou qu'est-ce que vous attendez exactement de la parole d'un président qu'elle soit avant tout effective, qu'elle se transforme en acte. Est-ce que c'est pas la première attente qu'on devrait avoir par rapport à cette parole, qu'elle nous réveille plutôt qu'elle nous endorme, vous venez d'employer le terme, comme une belle promesse.
C'est une question piège parce que là, vous ne posez pas la question à une traductrice. En tant que traductrice, je n'ai rien à attendre de la parole d'un président. Moi, je suis un messager, je dois rester invisible. Alors, en tant que citoyenne, en tant que personne, oui, bien sûr, j'ai une opinion comme vous et comme tout le monde. Mais la traductrice n'a aucune attente à avoir d'un président américain ni de sa parole. Alors, moi, évidemment, personnellement, je préférerais que le président américain s'exprime un peu mieux et que sa pensée soit un peu plus complexe. Je pense que pour l'avenir du monde, tout le monde s'en porterait mieux. Mais ça, c'est une opinion politique. Et en tant que traductrice, je dois la garder pour moi.
Invitée jusqu'à 13h30, la traductrice Bérangère Viennot à l'occasion de la parution de La langue de Trump. C'est aux éditions Les Arènes.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Vous êtes traductrice, citoyenne peut-être aussi par ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette analyse des mots de Donald Trump, vous avez aussi dressé un bilan de santé de l'Amérique d'aujourd'hui. L'Amérique, quand elle regarde son président, se voit dans un miroir qu'elle croit déformant, écrivez-vous, mais qui reflète une réalité qu'elle a longtemps voulu occulter et qui est en train de lui revenir en pleine figure. Quelle réalité pour vous, Bérangère Viennot ?
Je pense que c'est la réalité d'une Amérique qui ne veut pas regarder derrière elle les côtés sombres de son histoire. Quand Barack Obama a été élu, les Américains, beaucoup d'Américains et beaucoup d'Européens, d'Occidentaux se sont dit « ça y est, il y a un cap qui a été passé quand même ». Ils ont élu un président noir et après la lutte pour les droits civiques des années 60, après cette longue histoire déchirante de l'esclavage, de la guerre de sécession, etc. Là, pour le coup, on peut dire qu'il y a eu une vraie avancée et que la société américaine va de l'avant vers moins de racisme, plus d'humanisme et que c'est quelque chose de positif. Et puis, à la fin des deux mandats de Barack Obama, le fait que Donald Trump ait été élu comme ça, de façon surprenante, parce que personne n'y croyait, même je suis pas sûre que les républicains qui l'ont nominé y croyaient vraiment, ils pensaient peut-être la victoire assurée au camp adverse. Il y a eu une espèce de retour de bâton, un retour en arrière, la société américaine devient de plus en plus violente. Il y en a des exemples tous les jours aux États-Unis, mais même qui sont répercutés dans les médias français. Et cette violence, je pense, elle est due à une histoire de l'Amérique qu'on n'a pas voulu regarder, et je pense que le vrai accident de l'histoire de l'Amérique, eh bien, ce n'est pas Donald Trump, c'est Barack Obama, justement. Je pense qu'il y a eu effectivement ce sursaut à ce moment-là, mais qu'avec Donald Trump, on est vraiment dans la continuité d'une histoire de la violence, et que le fait que les gens aient voté pour Donald Trump, même s'ils n'ont pas voté en majorité pour lui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été élu avec 2 millions de voix de moins que Hillary Clinton, mais le fait que ce soit quand même lui, le président des États-Unis, et qu'il a encore un fort soutien, vraiment, il a toute une marge de la population qui le soutient encore très fort, quelles que soient les bêtises qu'il raconte, quels que soient ses mensonges. Je pense que c'est très révélateur d'une frange de la population américaine qui n'avait pas voix au chapitre, qu'on n'entendait pas parce que ils étaient pauvres, ils n'avaient pas médiatiquement de présence, parce qu'ils faisaient pas forcément partie de minorités à qui on essaye, justement avec Barack Obama, à qui on essaye de donner un peu de voix et de visibilité. Ceux qu'on appelle les white trash, les petits blancs, ceux qui se sentent vraiment laissés pour compte et qui ont l'impression qu'on les lèse, eh bien eux, ils voient dans Donald Trump l'avènement de leur prestance médiatique. Et c'est eux qui sont en train de parler. Et ils sont nombreux, ils sont très très nombreux. Ils n'ont pas du tout l'intention de se laisser abattre par les médias ou par toutes les critiques qu'on peut proférer à l'égard de Donald Trump, parce qu'ils ont décidé qu'ils n'y croiraient pas. Et ces gens-là, ils votent. Ils votent et ils iront voter encore la prochaine fois. Eux, ils sont très décidés à ce que ça continue dans cette direction-là. Et je pense que c'est eux le vrai, pas la seule image de l'Amérique aujourd'hui, mais c'est vraiment une image de l'Amérique qui existe. Et que les élites intellectuelles, qui sont les élites médiatiques de la côte Est, de la côte Ouest, qui sont les grands journaux, le Washington Post, New York Times, etc., ne veulent pas voir. Parce que, pas forcément parce qu'ils en ont pas envie, mais parce qu'ils ne se sont pas donné les moyens, et parce que c'est effectivement des gens pas représentés. Et comme ils sont pas représentés, on les a pas entendus. Et maintenant, tout d'un coup, avec Donald Trump, ils prennent la parole. Alors, ça paraît contradictoire, puisque Donald Trump ne les représente pas en réalité. Lui, il est riche, il a toujours été riche. Quand il a un problème, il trouve toujours une banque pour le renflouer, ce qui n'est pas le cas des petits blancs qui n'ont pas d'argent. Mais il a réussi à les convaincre par son langage, par sa rhétorique, par la simplicité de sa pensée, et puis par des promesses très creuses de rendre à l'Amérique une grandeur qu'en réalité elle n'a jamais eue. Et ce visage de l'Amérique-là, moi qui me fait vraiment peur, alors là en tant que citoyenne et en tant que traductrice, est en train d'aller sur le devant de la scène. Et j'ai aucun pronostic sur les prochaines élections. Je ne sais pas si c'est pas eux qui vont reprendre, enfin continuer d'avoir cette voix si forte et faire réélire Donald Trump, à moins qu'il lui arrive des bricoles au niveau politique, bien sûr.
Il ne les représente pas par son corps ou par son compte en banque, mais il les représente bien par sa langue, par son verbe. Et vous l'évoquiez aussi, ce monde un peu sans nuance qu'il semble se dessiner à travers la parole de Donald Trump, à travers ses good, ses bad, ses great et ses incredible. Ce monde que Donald Trump fait émerger, c'est aussi celui d'une Amérique qui était plus ou moins invisible, ou en tout cas inaudible de la part de cette élite médiatique et politique jusqu'ici. Alors justement, milliardaire narcissique, sexiste, raciste et inculte, ça c'est la manière dont vous le qualifiez dans votre livre, Bérangère Viénot. Trump, il est peut-être tout ça, mais non seulement il a été élu, vous le confirmez, mais il est encore là. Est-ce qu'on l'a tous, ou est-ce que vous l'avez tous sous-estimé?
Ah oui, c'est clair. C'est clair qu'on l'a tous sous-estimé. Moi, la première, j'y croyais pas avant qu'il soit élu. Je pensais que c'était tellement absurde que cet homme venu de nulle part, enfin venu de la télé-réalité et qui avait déjà dit pas mal d'horreurs avant d'être élu et même avant d'être nominé. C'était tellement absurde de penser qu'il puisse parvenir au poste le plus élevé, à la fonction la plus élevée aux États-Unis et donc du monde occidental jusqu'à la fin du XXe siècle. Et encore maintenant, c'est quand même les États-Unis qui donne la parole au reste du monde occidental, que moi j'ai sous-estimé, et les démocrates aussi sûrement. Alors le problème, c'est que eux de leur côté avaient une candidate qui bénéficiait d'une espèce de hostilité de base contre laquelle elle ne pouvait rien. Mais je crois pas avoir J'ai vu avant, juste avant son élection, quand même quelques médias qui commençaient à dire « Méfiez-vous, il pourrait quand même bien être élu et on serait bien tous surpris. » Mais il y avait une espèce d'attitude peut-être supérieure, peut-être suffisante, de gens qui réfléchissent. Et je m'inclus dedans, qui disaient « Non, c'est pas possible, il dit trop d'âneries. » On peut pas penser qu'un homme qui a l'air aussi bête puisse accéder à ce poste-là. Et en fait, si.
Vous dites qu'aujourd'hui, cette langue de Trump est contagieuse de la Hongrie en passant par l'Italie jusqu'au Brésil. Cette langue est en train de circuler, de se transmettre. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut revoir le métier de traducteur et votre formation, ou est-ce qu'il faut repenser la manière dont on fait de la politique aussi aujourd'hui?
Je pense que les traducteurs vont s'adapter à toutes les sortes de paroles politiques. Parce qu'encore une fois, on ne l'interprète pas, même s'il y a des interprètes, on la transmet. Et c'est aux personnes qui écoutent et aux personnes qui parlent de faire bien attention à ce qui se dit. Et c'est surtout ça qui est important. Oui, c'est une langue qui est contagieuse, mais le problème finalement, ce n'est pas la langue. Et le problème, c'est même pas Donald Trump. Le problème, c'est les idées qu'il y a derrière. Et Donald Trump, il a l'air de pas en avoir beaucoup parce qu'il parle de façon très simple. Mais si on analyse vraiment sa politique et ce qu'il y a sous son discours, parce que de temps en temps, on arrive quand même à extraire des choses, vu qu'il agit, Donald Trump, quand il prend des mesures politiques graves. Là, on se rend compte que c'est l'idéologie derrière qu'il faut écouter. Et quelle que soit la langue, les traducteurs pourront les traduire de toutes les langues possibles. Ce à quoi il faut faire attention, c'est à ce qui est dit, c'est pas à la forme, c'est au fond.
Vous traduisez de l'anglais au français et du français à l'anglais ?
Non, je traduis que vers ma langue maternelle. Normalement, tout traducteur doit traduire vers sa langue maternelle. C'est la seule langue dans laquelle on apprend vraiment bien l'intelligence de la langue. Alors, je peux traduire vers l'anglais, ce sera juste correct. Donc je laisse à mes collègues anglophones le soin de faire ça très bien.
Donc vous n'avez pas essayé de traduire la langue d'Emmanuel Macron ?
Non. Je n'ai pas essayé de traduire la langue d'Emmanuel Macron.
Qu'est-ce qu'ils en disent, vos confrères, là-bas, aux États-Unis ? Elle est simple ou compliquée à traduire ?
J'ai pas ni lu ni entendu de commentaires sur sa langue. C'est surtout celle de Trump qui les occupe aussi là-bas.
Bon, ben merci beaucoup, Bérangère Bénaud. La langue de Trump, votre roman, essai, qu'est-ce que je dis ? Votre essai vient de paraître aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup d'être passé autour de cette grande table et un grand merci aussi à toute l'équipe, à Maya Leskovic et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture. Un grand merci aussi pour leur aide précieuse à Jeanne Copé et à Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Hellig avec Clément Daté. Très belle après-midi à tous sur France Culture.